La bobinade nous permet de nous faire emporter vers les États-Unis, vers la contre-culture des années 60, vers la révolte d'une certaine partie de la population, de la lutte pour les droits civiques et de l'engagement également contre la guerre au Vietnam, à travers un texte de Oscar Zeta Acosta qui s'intitule « La révolte des cafards », qui est traduit de l'anglais américain par Romain Guillou et qui paraît aux éditions Tusitala. Alors c'est un texte assez ancien puisqu'il est originellement paru en 1973 et c'était l'occasion pour moi de découvrir cet auteur que je connaissais sans le connaître ou que je ne connaissais pas en le connaissant, puisqu'il est un ami d'Hunter S. Thompson qui a été mis en image par Terry Gilliam dans Las Vegas Parano. On peut dire que mon entrée en matière avec Oscar Zeta Acosta a été ratée. C'est un film absolument détestable que Las Vegas Parano. Et le personnage de Oscar Acosta est joué par Benicio del Toro, tandis que Johnny Depp joue le rôle de Hunter S. Thompson. Voilà, c'est toute l'époque du journalisme gonzo avec le recours à l'abus de drogue, les stupéfiants, une espèce de vie cool, la cool attitude, on baise, on boit, on se pique, en fait, toutes les drogues possibles et imaginables. Bon, c'était pas vraiment une entrée en matière très étourdissante. Il y a cela dans le texte de Oscar Zeta Acosta, qui était un ami de Hunter S. Thompson, qui a partagé avec lui un certain nombre de virées, mais c'est aussi un personnage beaucoup plus complexe et atypique que pourrait le laisser penser la prestation de Benicio del Toro dans le film. C'est un homme qui s'est engagé radicalement pour ceux qu'il appelle les cafards, qui sont en fait les Chicanos, c'est-à-dire les Mexicains américains, et pour lesquels il s'est véritablement battu, puisqu'il a été à la fois un porte-parole du mouvement, mais en même temps un avocat qui a défendu pas mal de ces personnes et de ces militants lorsqu'ils ont été accusés devant les tribunaux. Alors un premier volume était paru en 1972 qui s'appelait Mémoire d'un bison, qui racontait un peu la vie, on va dire, de Oscar Acosta avant qu'il ne devienne Oscar Zeta Acosta. Personnage donc qui est un gonzo, donc voilà, avec tout ce que ça recouvre, mais un homme aussi qui est porté par cette volonté farouche de défendre les droits civils des Chicanos, et en même temps qui a un regard sur lui-même fait de détestation et d'amour. Il était assez volumineux, Oscar Acosta. Hunter S. Thompson le décrit comme un personnage de 160 kilos, ce qui avait quasiment failli les amener au tribunal, Oscar Acosta n'ayant pas apprécié la comparaison. Un homme très gros, qui vivait très mal son rapport à son propre corps et qui avait tendance à jouer aussi de cela dans ses romans. Alors j'ai pas lu Mémoire d'un bison qui était déjà paru chez Tusitala et qui reparaît aux éditions 10-18 ce mois-ci, je crois. Mais je découvre le deuxième volume qui, à mon avis, me plaît plus et devait me plaire plus, puisqu'on y voit cette fois-ci l'avocat véritablement engagé. Un homme qui va nous entraîner de procès en tribunaux, et ce qui en fait un document assez exceptionnel sur l'époque, bien évidemment. Il était aux premières loges, il a véritablement vécu tout ce qui s'est passé, il a un sens de la narration assez incroyable et il parvient à nous faire participer à tout ce mouvement, à toute cette lutte, à cet enthousiasme partagé par les Chicanos qui essaient de faire reconnaître leur statut de discriminé aux États-Unis à l'époque des années 70. Il tente à montrer qu'on ne leur a pas apporté les mêmes droits qu'aux autres, notamment en matière d'éducation. C'est l'un des fondements sur lesquels ils reviennent systématiquement, qu'on ne leur permette pas l'accès à l'éducation. Mais c'est de manière générale tout un climat assez raciste et délétère qui est dénoncé par Oscar Acosta dans son ouvrage. Et il porte véritablement sur la place publique ce débat, puisque dans les moments où il va en plaidoirie, les moments où il se retrouve devant un juge, lorsqu'il est véritablement lancé dans sa démarche d'avocat, il se sert en fait vraiment du lieu comme caisse d'amplification afin de faire connaître l'existence des Chicanos et de faire reconnaître la validité et la légitimité de leur combat et de leur lutte. Donc c'est un homme qui est toujours finalement porté sur la lutte, sur l'engagement, et qui transforme toute situation en presque happening. Il est entouré évidemment d'amis qui sont prêts à le suivre partout. Il est totalement atypique, il détonne même dans son propre milieu. Il a une carte de visite sur laquelle il est bien marqué. Alors je l'appelle Oscar Acosta, dans le roman il porte un autre nom, mais on comprend parfaitement bien que c'est la même personne et que tout s'appuie sur des épisodes réels. Il reprend énormément d'affaires de cette époque dans lesquelles il était engagé. Donc sur sa carte de visite, il est bien marqué « Avocat Chicano ». C'est une précision essentielle à ses yeux. Et systématiquement, il ramène dans le débat, même quand on essaie de le détourner vers les voies les plus légales, et de lui rappeler qu'on est dans un procès avec une certaine respectabilité à avoir, une certaine procédure. Lui, constamment, essaie de faire surgir le soubassement politique qu'il y a derrière tout cela et montrer que la société en elle-même est viciée et que les membres du jury, la manière dont ils ont été choisis, le fait qu'ils appartiennent tous quasiment à la WASP, les protestants anglo-saxons blancs et évidemment masculins, est déjà en soi un vice de forme et qu'on ne peut pas avoir une justice égalitaire à partir du moment où, dès le départ, toutes les conditions ont été détournées de leur but final, à savoir faire éclater la vérité. Donc ça, c'est vraiment tout le côté document historique, le côté témoignage aussi très personnel du personnage, qui fait en soi un roman assez intéressant, assez fascinant, sur une époque que moi je reconnais mal maîtrisée, sur un domaine qui m'échappait un peu, et tout ça nous éclaire de manière assez incroyable et prodigieuse sur les événements. Maintenant, ce qui fait vraiment pour moi la qualité du livre, ce n'est pas du tout cette cool attitude que les médias mettent en avant à chaque fois qu'on parle d'Oscar Acosta. Moi, ça me paraît assez secondaire, et puis il y a plein d'autres textes qui portent sur le même thème. C'est plus l'expérience littéraire que ça peut procurer. J'avoue que j'avançais dans la lecture avec un peu de résistance. Il me semblait que Oscar Acosta était très loin de moi, et puis ce journalisme gonzo, ce côté drogue et sexe finissait par m'énerver un petit peu, parce que je trouve que la société actuelle, justement, est dans une résonance déformée de cette propre thématique. Et c'est malgré tout l'envie qui me poussait de poursuivre et de continuer ma lecture, parce qu'il y a dans l'écriture d'Oscar Acosta quelque chose qui n'est pas du tout littéraire, dans le sens où il n'y a rien de calculé, on dirait, ou de maîtrisé. Et le fait qu'on l'appelait le bison me paraît assez révélateur, effectivement, de son comportement. C'est un véritable bison qui est lancé à pleine allure et on se le prend en plein visage, ou alors on essaie de s'agripper à la bête furieuse et on part avec elle. Et c'est un peu ça, véritablement, que le roman porte. Il y a un côté foutraque, c'est bordélique, véritablement, anarchiste, pourrait-on même dire, d'un point de vue politique. Le personnage ne cache rien de ses qualités, de ses défauts. Il y a un côté extrêmement spontané dans la mise en scène de son personnage, de sa lâcheté et de ses coups d'éclat, de ses tentatives de fuite et ses retours vers la lutte. On voit vraiment le personnage presque qui s'ouvre entièrement au lecteur et qui cherche à lui faire partager ses propres sensations et sentiments. Et puis il y a ce côté furieux. Tous les moments qui se passent dans le tribunal sont assez exceptionnels parce qu'il pousse tout le monde à bout. Il est insupportable. Il avait des cravates criardes. Il ne respectait pas la procédure. Il interpellait le juge. Il ne cessait de refuser d'obtempérer. Il s'est retrouvé très régulièrement envoyé en prison alors qu'il était quand même l'avocat des accusés. Il les rejoignait parce que le juge l'envoyait en prison pour 48 heures, voire plusieurs jours, décidé à lui faire payer ses outrages au magistrat qu'il ne cessait de mener sur la scène, avec une désinvolture, une nonchalance presque suicidaire. Il y a quelque chose d'assez étrange dans la manière dont Oscar Acosta pouvait fonctionner. Et puis on voit se construire un mythe finalement à travers l'ensemble du livre, parce que quand même ses engagements ont été très loin. Il y a une scène assez épouvantable, il s'est engagé dans la défense. Le client était malheureusement mort. Une famille a soupçonné la police d'avoir assassiné Robert Fernandez. Et il s'est engagé effectivement dans cette lutte pour essayer de prouver, de montrer qu'il y avait bien eu assassinat et assassinat racial. Et la scène qui est assez éprouvante, c'est la scène où, faisant à nouveau autopsier le cadavre, il désigne au médecin les endroits où il faut récupérer une partie de la chair pour pouvoir montrer qu'il y a eu coup, qu'il y a eu violence policière. Et il raconte cela avec à la fois une espèce de distance horrifiée et en même temps d'engagement viscéral, où on voit le corps de ce jeune garçon être totalement démembré, éviscéré par les médecins. Enfin, et tout ça dans un but unique, qui est de, même s'il a violenté le corps et il s'en veut, il y a véritablement une sorte d'écœurement à voir ce qu'il fait subir à ce jeune garçon, même mort, il a encore la décence et la dignité de se rendre compte que c'est un être humain qu'on est en train de brutaliser, et en même temps le désir farouche de mettre la vérité à jour et de la faire surgir, avec toutes les choses trappes évidemment qu'on va lui mettre sous les pieds et qui rendront extrêmement délicate cette opération. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est rendu dans l'ensemble du texte et qui en fait un document viscéral, brutal, violent, que l'écriture importe dans son côté totalement enflammé et qui finit par donner du personnage une image à la fois agaçante parfois, le personnage a véritablement plein de défauts et il peut être insupportable, mais malgré tout porté par quelque chose de magistral. Et alors je trouve qu'il a un destin extraordinaire et en même temps presque conforme à ce qu'il nous a montré de lui. Un bison qui court et qui s'emballe et qui part au galop, et bien il finit par disparaître à l'horizon, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Oscar Acosta, qui en 1974, au Mexique, a disparu de la circulation. On ne sait toujours pas s'il est mort, s'il a fait une overdose, s'il a été assassiné par la police américaine pour les raisons qu'on peut imaginer, à savoir qu'il était un élément perturbateur qui ne cessait de raviver et de ranimer le débat racial, s'il y a eu un règlement de compte entre dealers, tout ça restera énigmatique au possible. Il a juste disparu et on reste avec cette image d'un Oscar Acosta qui encore aujourd'hui peut parfois apparaître sur les murs des cités. Il est vraiment l'emblème d'une lutte chicanos qui maintenant a beaucoup moins d'actualité ou d'acuité, on va dire, qui semble un peu s'être dissipé dans le paysage, mais qui conserve une véritable posture et une véritable teneur aux yeux de la population de Chicanos. Et c'est vraiment ça que le personnage symbolise aux yeux de tous. Alors, il est aussi une tête de Turc, son côté foutraque, anarchiste, totalement insensé, l'a amené à être aussi très violemment critiqué. On lui reproche son rapport aux femmes. Les féministes sont outragées par la manière dont il parle de toutes ces femmes qu'il ne cesse d'aligner les unes après les autres dans l'ensemble des pages de ses romans. Mais voilà, ce personnage, tout en complexité, en opposition, en contraste, en antithèse, il est aussi une figure assez impressionnante. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a emporté dans ma lecture et qui m'a amené jusqu'à son terme. Et alors, le texte est suivi par une postface d'un écrivain qui s'appelle Sechou Foster, qui avait publié un ouvrage récemment aux éditions Passage du Nord-Ouest, qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter dans l'émission, et qui revient sur le parcours d'Oscar Acosta et surtout fait parler un témoin de cette époque qui s'appelle Carlos Montes, que Oscar Acosta a défendu à de nombreuses reprises dans les très nombreuses affaires dont il s'est occupé et qui nous dit qui il était. Il l'a connu de très près parce que Oscar Acosta était vraiment aussi un manifestant et un militant. Il a été souvent désigné par les juges comme étant lui-même fauteur de troubles et bien qu'avocat, participant à cette espèce d'insurrection permanente, armée, violente. Il y a des morts dans la révolte des cafards. Et Carlos Montes explique aussi que c'est Oscar Acosta qui un jour lui a dit, lors d'un procès, bon écoute, tu es le seul sur lequel ils ont une prise du point de vue des indices, même si pour moi je sais que tu es innocent, ils ont la possibilité éventuellement de te faire tomber, il vaut mieux t'enfuir. Et qui lui a permis de s'échapper. Et effectivement, Carlos Montes a quitté le pays et pendant plusieurs années, il n'est plus revenu sur le territoire américain. Voilà, donc cette notion aussi que parfois la lutte devait se faire de loin et qu'il valait mieux s'échapper. C'est aussi une notion qu'Oscar Acosta a toujours eu en tête. Enfin, l'essentiel était aussi de sauver des individus. Enfin, la manière dont il parle des gens qu'il défend, ce sont des individus. Il y a vraiment une prise en compte de l'être. Hein, c'est pas un groupe, même si ça se cache derrière des intitulés, on va dire, judiciaires, hein, les 21 de Saint-Basile, les 7 de Thuner Flats. Derrière ces chiffres, il y a des êtres pour lesquels Oscar Acosta s'engage. Et même derrière ces figures féminines qui défilent les unes après les autres dans sa chambre, fantasme ou réalité, on laissera au lecteur le plaisir de décider, il y a à chaque fois un être qui se dessine, hein, et que l'écriture enflammée et violente d'Acosta parvient à dessiner de manière assez souveraine. Voilà, donc je vous invite à le découvrir. N'hésitez pas à aller voir Mémoire d'un bison, puisqu'il paraît aux éditions de poche 10-18, mais en tout cas n'hésitez pas à lire La révolte des cafards d'Oscar Zeta Acosta, qui est traduit de l'anglais américain par Romain Guillou pour les éditions Tusitala.